Merci d'avoir téléchargé cette émission d'Au fil du savoir. Retrouvez toutes nos émissions sur aufildusavoir.fr. On a tous vu un volcan, qu'il soit endormi sur l'axe nord-sud partant du Massif central à la Méditerranée, actif en Guadeloupe, Martinique, Polynésie française et à La Réunion, ou encore l'Etna en Italie. Mais sait-on vraiment ce qui se passe dans leurs entrailles? Doit-on s'attendre à des surprises? Un début de réponse est proposé par les docteurs Bergens et Burgisser en développant un modèle théorique qui permet d'orienter les efforts à faire pour mieux comprendre le processus éruptif. Docteur Burgisser, bienvenue au fil du savoir.
Merci beaucoup.
Commençons par les bases. Décrivez-moi l'anatomie d'un volcan.
Un volcan, c'est un édifice qui fait plusieurs, parfois plusieurs kilomètres de hauteur. Mais surtout, c'est un édifice qui est alimenté par ce qu'on appelle une chambre magmatique, c'est-à-dire un réservoir de lave qui se trouve situé à plusieurs kilomètres sous le volcan. Et c'est ce réservoir de lave qui alimente le volcan et qui permet les éruptions.
D'où vient le combustible, le magma?
Alors, ce réservoir est rempli de lave. La lave elle-même vient d'une partie qui est beaucoup plus profonde de la Terre, qu'on appelle le manteau, qui est situé à plusieurs dizaines de kilomètres sous la surface de la Terre. Et c'est ce manteau, qui est riche en lave extrêmement chaude, qui vient tranquillement alimenter ce réservoir de lave qui se trouve à mi-profondeur, entre le manteau et puis la surface. Et c'est de là que tout le cycle du volcan peut se définir. Il s'agit d'apporter du magma depuis les profondeurs de la Terre, du manteau, jusqu'à la surface de la Terre.
À quel comportement de la part des volcans s'attendait-on avant vos travaux?
Alors, nos travaux en fait sont partis d'une idée assez simple. C'est que se passe-t-il quand un volcan s'endort? Qu'est-ce qui permet de le réveiller? Un volcan s'endort quand cette lave qui se trouve à plusieurs dizaines de kilomètres sous le volcan, dans ce réservoir, devient essentiellement très froide, très visqueuse. Elle forme une espèce de pâte très visqueuse qu'il est très difficile de faire bouger. C'est une des raisons pour lesquelles un volcan s'endort. Et nos travaux se sont intéressés à ce processus de réveiller un volcan. Comment faire pour que cette pâte qui est extrêmement visqueuse, qui ne bouge pas, se mettre à devenir mobile et puis permettre une éruption. Alors les anciennes vues sur ce problème mentionnaient que la lave qui revient du manteau remonte jusqu'à cette chambre magmatique et réveille le volcan. Comment le réveille-t-elle? Eh bien, c'est assez simple. Il s'agit simplement de réchauffer cette pâte visqueuse lentement, très lentement puisqu'elle est très visqueuse. Et ce processus prenait plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Donc un processus extrêmement lent. On appelle ça du réchauffement par conduction. Conduction de chaleur, c'est-à-dire que simplement on vient mettre un espèce de four en dessous de notre réservoir magmatique et tranquillement la lave qu'il contient se met à se réchauffer simplement en restant immobile. Ce processus très lent, eh bien, on imaginait simplement qu'un volcan qui devait être réveillé avait besoin de beaucoup, beaucoup d'apports de nouvelles laves. Et puis, finalement, après un processus de conduction, le volcan était en capacité de se réveiller puisque la lave était devenue, cette pâte visqueuse était devenue chaude et donc relativement fluide et prête à bouger. Alors, de notre côté, nous sommes partis sur nos recherches en étudiant ce qu'on appelle la mécanique de cette pâte visqueuse. La lave est un matériau complexe et réchauffer de la lave provoque des changements dans son comportement qui sont loin d'être faciles à comprendre. On a eu besoin d'expérience. Donc on est parti sur les résultats expérimentaux de nos collègues qui, eux, ont réchauffé de la lave en laboratoire et se sont rendus compte que deux choses se produisaient quand on réchauffait de la lave. D'une part, elle devient de moins en moins visqueuse, elle devient de plus en plus fluide, et ce processus se passe par étapes. On réchauffe peu à peu la lave, sa viscosité ne change pas, et tout d'un coup, la lave devient extrêmement visqueuse. On pourrait apparenter ce processus à réchauffer une fondue savoyarde. À un certain moment donné, le fromage se sépare du vin. Le vin est très très liquide, et puis le fromage fondu, lui, est très visqueux, n'a pas envie de bouger. La lave, c'est à peu près pareil. Elle passe par une espèce de transition de très très visqueux à très fluide. Premier élément. Second élément, elle devient de plus en plus légère. Ça, c'est comme les fluides habituels, comme de l'eau qui serait réchauffée, elle devient de plus en plus légère. Et c'est la combinaison de ces deux choses que nous avons mis ensemble dans un modèle mathématique qui nous a permis de se rendre compte que le réservoir magmatique qui était réchauffé très visqueux se comportait en fait de manière convective, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment donné, la lave plus légère, moins visqueuse, était capable de retourner l'entièreté de la chambre magmatique. Et c'est ce mouvement-là, qui est extrêmement rapide, de convection, qui permet de réveiller une chambre, non pas en plusieurs centaines ou milliers d'années, comme on pensait auparavant, mais en quelques mois, voire quelques années. C'est-à-dire un processus beaucoup, beaucoup plus rapide que ce qu'on imaginait auparavant.
Une petite parenthèse, comment fait-on pour réchauffer de la lave en laboratoire ?
On la met dans un four. On la met dans un four qui ressemble à des fours, des hauts fourneaux dans lesquels on fait fondre du métal, par exemple, pour fabriquer des objets. Et on a ce même type de four sur lesquels on a adapté des systèmes de haute pression, puisque la lave se trouve à des dizaines de kilomètres de profondeur. Ça représente des pressions énormes de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'atmosphères, pour être exact. Et ces fours à haute pression nous permettent de prendre des petits volumes de lave, ce sont la taille d'un crayon à peu près, la taille d'une gomme, quelques centimètres, et de les réchauffer et puis de faire un certain nombre d'expériences dessus.
Ce modèle que vous avez développé s'applique-t-il à tous les types de volcans ?
Alors, il s'applique en fait à la plupart des volcans qu'on qualifie d'explosifs. Parce que les volcans qu'on qualifie d'explosifs, on a une lave extrêmement visqueuse, une pâte, qui, elle, répond bien aux critères que nous avons utilisés dans le modèle mathématique. Le modèle, par exemple, ne s'appliquerait pas aux volcans qui alimentent les rides médio-océaniques. À ces endroits-là, la lave est très peu visqueuse. Dans les volcans comme Hawaï, par exemple, la lave est très très peu visqueuse. Le volcan est pratiquement en activité continuelle et elle ne se gèle pas, elle ne se fige pas de la même manière. Mais notre modèle s'applique à la plupart des volcans, finalement, qui provoquent des dégâts par explosion.
Et vous avez pu tester ce modèle ?
Alors, on l'a testé, mais on l'a testé a posteriori. On a pris une éruption, on a pris deux éruptions en réalité, deux volcans en particulier. Je vais prendre le premier par simplicité. Le premier, c'est le mont Pinatubo, qui a fait éruption en 1991. C'est la deuxième plus grande éruption du XXe siècle. On a pris toutes les données qu'on a pu récupérer sur cette éruption. Et une des données absolument fondamentales, c'est quel type de lave est sorti. Après éruption, les gens qui ont été collectés, les débris de lave qui sont sortis du volcan, ont pu faire des analyses dessus et nous donner des indications précieuses qui nous ont permis de déterminer quelles étaient les caractéristiques de ce volcan. Alors, le volcan a fait éruption en 91, et quelques mois auparavant, 2 mois pour être plus exact, les scientifiques qui travaillaient là-bas à l'époque ont récupéré un certain nombre de signaux sismiques qui indiquent l'arrivée de lave fraîche. Donc, ce que l'on sait sur ce volcan, c'est qu'il a fallu environ 2 mois pour passer d'une chambre magmatique qui était figée jusqu'à une chambre magmatique qui est suffisamment mobile pour pouvoir permettre une éruption. La théorie classique prédisait 500 ans pour réussir à réchauffer cette lave.
Ça crée une différence.
Ça fait une grande différence. Et notre modèle, une fois appliqué à ce volcan de Pinatubo, prévoyait entre 20 et 80 jours. 20 et 80 jours, ça correspond relativement bien à cette observation de 2 mois. En tout cas, ça correspond beaucoup mieux qu'une durée de 500 ans. Donc ça nous a donné une certaine confiance dans notre modèle. On a été l'appliquer à un autre volcan qui s'appelle Montserrat, qui a une éruption qui est encore actuellement en cours, qui a commencé dans les années 95-96. Et là aussi, la même chose s'est produite. La théorie prédisait plusieurs centaines d'années. En réalité, le volcan s'est réveillé en grosso modo une année et notre modèle prédisait des durées à peu près équivalentes. Donc on propose le modèle en ayant testé sur des éruptions ayant existé.
Ce modèle a-t-il des aspects prédictifs ? Est-ce que vous pourriez réévaluer la dangerosité d'autres volcans comme ça ?
On aurait bien aimé, mais malheureusement, relativement peu. Relativement peu pour deux raisons. La première raison, c'est que de réveiller une chambre magmatique, c'est une condition qui est nécessaire, mais pas suffisante pour une éruption volcanique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que la chambre est réveillée, qu'elle est mobile, que le volcan va faire éruption. Il manque un certain nombre de choses pour que le volcan fasse éruption. comme par exemple mettre la chambre magmatique sous pression. D'accord ? On peut apparenter ça de manière triviale. Quand le réveil sonne le matin, ça ne veut pas absolument dire qu'on va sortir du lit, grosso modo.
Je confirme.
D'autre part, il nous faudrait ces indications précieuses qu'on a pu récupérer à Pinatubo. Et ces indications précieuses sont notamment quel type de lave se trouve en profondeur. Et de réussir, pour prédire, il faudrait réussir à deviner quel type de lave se trouve sous le volcan qui nous intéresse. Et ça, comme la lave est située à une dizaine de kilomètres de profondeur, c'est une chose extrêmement difficile à faire. Donc ça nous empêche actuellement d'utiliser ce modèle de manière prédictive.
Est-ce que ce modèle peut s'appliquer à autre chose que du magma ?
Tiens, c'est une excellente question, j'avais jamais pensé à ça. sans doute, mais il faudrait que le matériau auquel le modèle soit appliqué corresponde à peu près aux caractéristiques d'une lave. Et je peux simplement dire que une des caractéristiques d'une lave, c'est que quand on la refroidit, elle passe de l'état d'un liquide à l'état d'un solide en formant des cristaux. Elle cristallise. D'accord ? Et que tout matériau qui cristallise pourrait avoir une application pour ce modèle. Ça pourrait être des cristaux de sel dans un liquide. Ça pourrait être, on peut ouvrir son imagination. Mais je pense qu'un des points fondamentaux, c'est cette existence de cristaux à l'intérieur de l'objet dans lequel vous voulez appliquer ce modèle. Dans un autre domaine que la volcanologie, il a d'intérêt pour les gens qui s'occupent de la formation des montagnes, notamment des montagnes granitiques, comme par exemple le Mont Blanc. Et la formation de ces montagnes répond à certaines règles qui sont très très proches de celles des volcans. On pense que ces montagnes sont formées de chambres magmatiques gelées, qui n'ont pas eu la chance de faire éruption, il s'agit d'une chance, et qui se sont fait tranquillement remonter depuis les profondeurs de la Terre où ils se trouvaient, des dizaines de kilomètres de profondeur, pour fabriquer des montagnes du type du Mont Blanc. Et je pense que nos résultats peuvent lier davantage ce qu'on observe sur les volcans avec ce que les gens font en étudiant des montagnes granitiques, des massifs granitiques du type du Mont Blanc.
Quelle est l'étape suivante après avoir développé ce modèle ?
Eh bien, ça nous pointe le doigt. Ça nous pointe le doigt sur les caractéristiques véritables qui contrôlent le réveil d'une chambre magmatique. J'ai parlé de la viscosité. La viscosité, malheureusement, nous avons fait une étape importante, mais il manque encore de la précision. On a encore des erreurs sur l'estimation de la viscosité d'un magma qui sont très très fortes. Donc ça met le doigt sur ces caractéristiques-là. Ça encourage les expérimentalistes à faire davantage d'expériences de manière à nous donner des lois de viscosité qui soient encore plus précises. Et puis je pense que ça peut aussi encourager d'autres communautés comme les géophysiciens qui regardent les signaux qui viennent de la Terre, qui essayent de les interpréter et qui utilisent ces signaux pour essayer de déterminer quelles sont les caractéristiques des champs magmatiques, leur profondeur et puis leur teneur en cristaux. Je parlais de cristaux tout à l'heure. Cristaux sont essentiels à la détermination d'une viscosité. Et donc il existe des méthodes qui sont en train d'être développées actuellement, notamment basé sur les ondes sismiques et puis sur les champs électriques qui permettent de relier un signal qu'on observe sur un volcan avec un potentiel de cristallinité et de type de lave et de taille de champ magmatique. Donc ça met l'accent sur ces deux choses, je pense, sur lesquelles on peut continuer à travailler.
Bien, docteur Burgisser, merci.
Mais je vous en prie.
Le docteur Alain Burgisser est chargé de recherche à l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans. Le modèle théorique, réalisé en collaboration avec le professeur George Bergens de l'Université de Washington, a été publié dans le journal Nature. Une transcription de cette émission vous attend sur aufildusavoir.fr.